envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Nous passons tous par des moments de découragement. Les choses parfois tournent mal, on a fait des projets, on a fait des plans. Et finalement, en tout cas, Dieu n'a pas répondu comme on espérait et les choses nous dépassent. Peut-être c'est un ami qui s'est retourné contre vous, peut-être c'est un travail qui vous a échappé. Mais en tout cas, nous savons que toutes choses sont entre les mains de Dieu. Mais néanmoins, nous passons quand même par des découragements. Et finalement, c'est normal. C'est normal, pourquoi ? Parce que nous sommes encore des êtres humains, un petit peu comme Élie, qui a connu des temps forts avec Dieu, mais qui a aussi connu ces temps de découragement. Pourquoi est-ce que c'est normal ? Parce que bien, nous sommes créés avec des sentiments. Nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Je discutais avec un chrétien il y a quelque temps de cela, qui m'a raconté qu'il avait fait un burn-out suite à son activité dans son travail. Un burn-out, c'est un épuisement au travail. Il était tellement à fond dans son travail qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à fournir les efforts nécessaires. Il a fait un burn-out et ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, il n'a pas pu reprendre ses activités tellement il s'était épuisé. Et voilà, et parfois il faut du temps. Alors quand nous faisons trop, eh bien il faut du temps pour réparer. Et la réparation, ça prend du temps. Et on est toujours un peu fragile. Les médecins lui ont dit que pendant ces 2 ans, il allait rester fragile et qu'il fallait qu'il change ses habitudes. Et parfois, nous avons pris trop de choses en main et nous sommes en train d'être en danger de faire un burn-out comme ce chrétien. Par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Maintenant, il va beaucoup mieux. Mais en fait, il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire comme avant. Et ça, c'est aussi la sagesse. Alors, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le verset 2. Les paroles auxquelles vont être confrontés Élie dans ce passage sont des paroles mauvaises. Verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » En fait, dans le chapitre précédent, Élie venait de faire mourir tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et donc, Jézabel le menace. Qui est Jézabel ? Nous la connaissons bien dans l'Écriture. C'est la fille du roi Et-Baal, qui signifie « avec Baal ». Donc, c'était un roi de Tyr et de Sidon, prêtre d'Astarté. Donc, tout ça, ce sont des faux dieux que cette femme a apporté en Israël. Elle a introduit le culte de Baal, donc des faux dieux, et elle a éliminé progressivement les prêtres ou les sacrificateurs de l'Éternel pour les remplacer par des prêtres de Baal ou d'Astarté. Et puis, elle est devenue l'épouse du roi Akab. Akab qui était un mauvais roi. Et c'est Jézabel qui prenait les décisions souvent à la place de son mari. Par exemple, Akab, un jour, a voulu acheter la vigne d'un certain Naboth. Mais Naboth a refusé de la vendre au roi. Pourtant, le roi lui a donné un bon prix et lui proposait même de prendre une vigne meilleure. Mais comme cette vigne était à côté du palais, Akab voulait la voulait pour lui, pour ses soins personnels. Devant le refus de Naboth, il est rentré chez lui, s'est jeté sur son lit, puis a pleuré. Et sa femme, Jézabel, voyant cela, lui a dit, « Mais qui règne sur Israël? Est-ce que c'est toi qui règnes sur Israël? Donne-moi ton cachet, et moi je vais m'occuper de te récupérer la vigne de Naboth. » Et elle écrivit des lettres pour qu'on fasse lever des faux témoins pour accuser Naboth qu'il a insulté l'Éternel, insulté le roi, et qu'il soit lapidé. Et c'est ainsi que Naboth a été tué et que la vigne a été récupérée. Tout ça par la méchanceté et l'influence de Jézabel. Donc on voit que c'est une femme puissante, c'est une femme méchante, c'est une femme qui impose le culte de Baal au royaume d'Israël. C'est une femme aussi sanguinaire qui a fait tuer des vrais prophètes de l'Éternel. Et c'est pourquoi Élie, quand il entend ces paroles, il les prend à cœur et il sent que lui aussi, il va mourir comme les autres prophètes. Alors, qui est Jézabel? Il faut voir, derrière Jézabel, il y a un esprit, c'est l'esprit du malin, l'esprit du monde. Jésus dit, Satan ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà l'œuvre de l'ennemi qui se reflète à travers la vie de Jézabel. En suivant Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, nous avons changé de camp. Nous étions, nous aussi, membres du royaume des ténèbres. Mais dans Colossiens, chapitre 1, verset 12, et c'est Paul qui l'enseigne, il dit ceci, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et ça, c'est une grande bénédiction, car nous étions environnés dans le mal, un petit peu comme Jézabel l'est, à sa manière. Elle était enténébrée, mais nous avons accepté la grâce et maintenant nous avons changé de camp. De fait, donc, nous sommes attaqués par le malin, un petit peu comme Élie, ici, est attaqué au travers de Jézabel par l'adversaire pour le faire chuter. Nous sommes attaqués au niveau des pensées, par des découragements, par des doutes, par des pensées de dévalorisation. Nous sommes attaqués au niveau des tentations. L'ennemi veut nous pousser à nous éloigner de Dieu, à désobéir à sa parole, à chuter moralement, un petit peu comme une autre personne, quand Joseph était chez Potiphar, il y a la femme de Potiphar qui a tenté Joseph pour avoir des relations avec lui. Joseph a préféré fuir, mais il a été tenté. Et au niveau des persécutions, car dans notre propre famille, nous connaissons l'opposition. Même dans notre foyer, je lisais dernièrement le témoignage d'une femme qui s'appelle Maud Tissard, c'est une Anglaise. Elle était complètement athée, son mari aussi. Il ne croyait en rien. Et un jour, elle a découvert l'Évangile et elle a donné son cœur au Seigneur. Mais lorsque elle est revenue à la maison avec la parole de Dieu, son mari n'a pas du tout accepté son nouveau choix de religion. Et à ce moment-là, son mari lui a donné un ultimatum et lui a dit, « Tu choisis, soit c'est moi, soit c'est ton Dieu, mais si tu choisis ton Dieu, je ne peux plus rester avec toi. » C'était un choix terrible. Alors, elle a préféré bien conserver son couple et garder sa foi à l'intérieur sans aller à l'église. Mais du moins, elle avait une Bible et elle rencontrait des croyants à chaque fois qu'elle emmenait des enfants à l'école et qu'elle venait les récupérer. Elle entretenait sa foi de cette manière-là et ça a duré des années. Et elle a été persécutée à cause de sa foi. Elle était persécutée. Et qu'est-ce que voulait l'ennemi ? Il voulait que cette femme, qui était une jeune croyante, on pourrait dire un tout nouveau bébé spirituel, il voulait qu'elle abandonne la foi et qu'elle retourne dans le monde d'où elle était sortie. Mais cette femme a tenu ferme, elle a tenu bon, et au bout d'un certain nombre d'années, elle a obtenu la possibilité d'aller à l'église, elle s'est fortifiée encore, et petit à petit, elle priait toujours pour son mari, et petit à petit, en fait, il y a une œuvre qui s'est faite dans le cœur de son mari qu'elle ignorait. Car quand elle partait à l'église, son mari allait fouiller dans ses affaires pour chercher une Bible et pour lire la Bible en secret. Et en fait, Dieu a touché son cœur aussi et il a fini par se convertir. Mais elle a été éprouvée au niveau de la foi et cela nous arrive aussi dans notre propre famille parfois, quand un conjoint n'est pas au Seigneur, eh bien, c'est peut-être le cas de quelqu'un, si votre conjoint n'est pas au Seigneur, en tout cas, tenez bon dans la prière, tenez bon dans la foi, car le Seigneur aussi a un plan pour nos conjoints, il a un plan pour votre époux, pour votre épouse, mais on aura des persécutions et il faudra tenir ferme. Le nom de Jézabel est même rapporté dans l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2 et au verset 20. Jézabel est un nom symbolique ici pour désigner une femme qui commet le péché dans l'église de Thyatire. Apocalypse 2, 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Il y a ici un nom qui est mentionné, Jézabel, qui fait référence très probablement donc à cette Jézabel qui introduisait les faux cultes en Israël. Et elle est appelée ainsi Jézabel pour montrer eh bien, qu'elle introduit un faux culte. La Bible l'appelle le culte des Nicolaïtes, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, c'est une secte qui disait qu'on peut faire ce qu'on veut du moment qu'on est chrétien, même vivre dans le péché, mais du moment qu'on croit en Dieu, on a une totale liberté. Et c'était un faux enseignement. Alors il y aura toujours comme ça des Jézabel, parce que l'esprit de Jézabel est toujours là. Et ils se lèveront pour séduire les chrétiens les plus faibles. C'est pourquoi Paul donne un enseignement très précis sur ce que nous devons faire dans notre vie chrétienne. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 3, c'est à nous de prendre position pour ne pas nous laisser contaminer ou nous laisser dévier par l'esprit de Jézabel qui essaye de détourner les serviteurs de Dieu. Mais Paul, au contraire, dit ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc, c'est prendre des positions spirituelles. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son prochain de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est de fait, nous avons cru en Jésus, nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour lui. Mais cette sanctification, nous devons la vivre chaque jour, en nous abstenant du péché, de la débauche, des choses malsaines qui nous entourent, et de prendre des positions spirituelles en disant, bien, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est parfois difficile, c'est parfois un sacrifice, mais nous comptons sur la grâce de Dieu, en tout cas pour nous maintenir dans cette vie de sainteté pour la gloire du Seigneur. Alors, le deuxième point, c'est au verset 3. Élie, entendant ces paroles, va fuir. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheva, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Si vous connaissez les chapitres, le chapitre qui précède, 18, vous verrez que Élie a connu un temps fort avec le Seigneur. Notamment, il a prié pour que le feu tombe du ciel sur l'autel et l'holocauste, la bête qui avait été offerte en sacrifice, alors que les faux prophètes avaient prié, et rien ne s'était passé. Et lui, il avait vu la main de Dieu agir. On peut dire que Élie était plein de foi. Il avait prié un petit peu après pour que la pluie tombe à nouveau. Il n'avait pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et suite à sa prière, la pluie est revenue. Donc, il vit des exaucements. Il vit au sommet de la montagne, il vit des bénédictions, il est boosté par sa foi et en même temps, il sait que Dieu peut tout faire, mais il a aussi cette nature humaine que nous avons tous. Et cette nature humaine fait que, eh bien, un événement, un incident peut bouleverser notre existence. Quel est cet incident? C'est la réaction de Jézabel. Jézabel lui dit, tu vas voir, tout ce que tu as fait à mes prophètes, tu vas finir de la même manière. Et cela va créer la peur dans son cœur. La foi va donc diminuer. Bien sûr, il croit toujours en Dieu, il croit toujours que Dieu peut tout faire, mais en même temps, ce sont les paroles de Jézabel qui ont rempli son esprit et il va choisir la fuite. Et dès qu'on quitte la foi, dès qu'on quitte la confiance en Dieu, eh bien, c'est la fuite devant l'adversaire, c'est la peur qui l'envahit, c'est le cœur qui chavire. Et la peur, c'est un géant qu'il nous faut confronter. La peur, ça peut nous paralyser. Personnellement, j'ai peur des chiens. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme moi dans la salle. Je n'ai pas peur des petits chiens, mais j'ai peur des gros molosses. Et quand je vois un gros molosse, je commence à trembler, j'ai peur. Ça revient certainement à mon enfance, parce que j'ai été attaqué petit par un chien et ça m'a marqué à vie dans mon esprit. Alors je prie pour prendre des victoires sur ma peur. Et lorsque, pendant le temps où j'étais en vacances, le matin très tôt j'allais marcher avec mon petit livre des Gédéons, ce petit livre des Gédéons où j'ai des versets, comme ça me permet d'entretenir des versets dans mon esprit et de méditer. Et pendant cette marche, je croise un chien. Immédiatement, je m'arrête. Et puis, c'était un gros chien. Et le chemin était étroit. Et je suis sûr que je vais le rencontrer en face. Et il n'y avait pas de maître à proximité. Et je dis, dans mon esprit, je dis, j'ai pas peur des chiens, j'ai pas peur des chiens, j'ai pas peur des chiens. Et je fais 3 pas en avant. Au moment où je fais 3 pas en avant, le chien, chut, j'ai trouvé un chien qui avait plus peur de moi que moi de lui. Et moi, j'ai continué ma marche. Et plus j'avançais, plus il partait. Et finalement, on ne s'est pas croisés, gloire à Dieu. Et j'ai pris une victoire ce jour-là sur ma peur. Bon, je sais que ma peur, elle est toujours là, mais je prie, Seigneur, garde-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Mais cette peur-là, quand elle vous saisit, ça vous paralyse. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu pour traverser les moments d'épreuve. Pourquoi Élie a-t-il chuté aussi vite ? La Bible le dit au verset 3, Élie voyant cela, la vue est pour nous une occasion de chute. Lot leva les yeux et il vit la plaine arrosée du Jourdain. Ça a été pour lui une occasion de chute. Il a préféré aller habiter loin de la montagne, loin du lieu de la présence de Dieu, dans les plaines de Sodome et Gomorre. La femme de Lot, pareil, elle regarda en arrière. Ses yeux ont été pour elle une occasion de chute, transformée en statue de sel. C'est Pierre, quand il a vu que la tempête faisait rage, qu'il a quitté des yeux du Seigneur, qu'il s'est enfoncé. Jésus nous dit que nos yeux sont dangereux. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il vaut mieux arracher son œil, dit Jésus, et le jeter loin de toi, plutôt que ton corps ne finisse dans la géhenne. Donc Jésus nous enseigne de faire attention à notre vision. Notre vision aura des conséquences sur notre foi. Alors quand on lit Élie voyant cela, sa vision, lorsqu'il a eu une représentation mentale, une peur par rapport à sa vie, la représentation qu'il allait mourir comme les faux prophètes, eh bien ce qu'il a vu là dans son esprit l'a fait douter. Et à ce moment-là, il ne savait pas si Dieu interviendrait ou pas cette fois-ci. Peut-être il savait que Dieu était intervenu hier, mais aujourd'hui, est-ce qu'il allait intervenir ? Il ne savait plus. Alors nous savons qu'il ne doit pas en être ainsi, mais nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous des peurs, nous avons tous des craintes, nous avons tous des défis, des géants qui sont là devant nous. Et souvent, ben, comme Élie, nous avons cette paralysie qui vient nous prendre et puis nous fuyons et puis nous faisons des images dans notre esprit, des images mentales. Alors, qu'est-ce que dit la Bible ? Paul nous dit que nous ne devons plus marcher par la vue, mais par la foi. Et c'est ça la vie chrétienne, ce n'est pas par la vue, car la vue nous fait peur. Ou la vue nous dit, ça va être peut-être facile, or ça va être difficile. Donc nous laissons souvent piéger par la vue. Par exemple, quand nous prions, nous attendons toujours, ou très souvent, un petit signe de Dieu pour qu'on puisse voir quelque chose. Si nous sommes malades et qu'on a une petite amélioration, ben merci Seigneur, voilà, c'est un petit signe, parce que nous avons besoin de voir pour croire. Eh bien ça, c'est très différent dans la Bible, qui nous apprend à faire confiance à Dieu même quand on ne voit rien. Pire, même quand la situation se dégrade, il nous faut continuer à croire que Dieu est là et qu'il tient notre vie entre ses mains. C'est extrêmement difficile, car tous nos sens nous disent « ce n'est pas possible », nos yeux nous disent « ça se dégrade », mais la foi dans notre cœur nous dit « tout est possible à celui qui croit, je veux l'entretenir, je veux faire confiance à Dieu ». Et c'est ça qui doit animer notre vie, animer notre âme. Élie, donc, quand il a vu cela, il part à Beersheba. Il faut savoir que c'est à 160 km du lieu où il était avant. Donc, il a déployé une énergie considérable, 160 km. Et jusqu'au désert, Beersheba, c'est à l'extrême sud de Juda. Et après, c'est le désert. Là, il laisse son serviteur et il fait encore une journée de marche sous la chaleur dans le désert. Quelle énergie! Quelle énergie pour fuir, pour s'échapper. Mais s'il avait utilisé ses forces pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour servir Dieu, eh bien, il en aurait été tout autrement. Mais il utilise la peu d'énergie qui lui reste pour s'échapper. Verset 4, c'est les paroles de découragement. C'est le troisième élément que je vois ici. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ça, c'est tout le processus du découragement. Une fois qu'on a laissé le découragement rentrer dans notre âme, il va nécessairement se traduire par des paroles. Lorsqu'Élie a laissé l'intérieur être entamé, eh bien, ces paroles vont être des paroles de plainte, de gémissement. Et c'est normal, ça exprime ce qu'il y a dans son cœur. Et son corps va être fatigué, il va être couché par terre. Et il en est ainsi pour nous. Lorsque nous laissons le découragement faire son œuvre dans notre cœur, eh bien, ce sont des paroles, peut-être comme Élie, de dire ben, « j'en ai assez maintenant, je préfère mourir plutôt que vivre, j'en ai assez de cette situation ». Et ce sont des paroles bien, qui permettent d'évacuer peut-être le trop-plein qui est là en nous, mais en même temps, nous sentons comme un accablement, comme une fatigue, et il va falloir être délivré de ce découragement intérieur. Ce n'est pas le fait de ne plus dire les choses mauvaises, mais c'est le fait d'être délivré à l'intérieur. Parce que Jésus dit, c'est du dedans. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si notre cœur n'est pas transformé, on peut essayer de changer nos paroles, mais ça ne fonctionne pas. Il faut que le cœur soit transformé. Alors, comment faire pour changer l'intérieur? D'abord, Pierre nous enseigne de se décharger sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5, 7. Non pas quelques-uns de vos soucis ou les plus gros soucis, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il faut savoir que chaque jour, nous avons l'occasion de nous faire des soucis pour des tas de choses, des soucis nouveaux qui surviennent, des soucis en prévision de difficultés qui pourraient arriver, des soucis ne finissent jamais. Donc nous n'aurons jamais terminé de nous décharger sur lui. Et Élie avait besoin de vider son cœur, sa souffrance, sa crainte, de la déposer aux pieds de Dieu et de laisser son cœur être rempli. C'est une deuxième étape. Une fois que nous avons déchargé nos soucis, laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Ça, c'est Paul qui l'enseigne. Une fois remplis du Saint-Esprit, nous sommes transformés de l'intérieur, nous sommes fortifiés et ça va avoir des répercussions sur nos pensées, sur nos paroles, sur notre vie spirituelle. Nous allons être plus aptes à servir, à faire la volonté de Dieu, puisque nous avons cet entretien spirituel. Mais attention, l'entretien, c'est notre part. Dieu nous remplit du Saint-Esprit, oui, mais après, il nous faut entretenir la vie avec Dieu, la vie spirituelle, et ça, c'est notre part. Nous avons donc, nous aussi, notre temps à passer avec Dieu dans la communion, à chercher sa face et à prier le Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'ennemi, lui, veut vous remplir d'autre chose. Il veut vous remplir de son message. Comme à Élie, lui dit « Tu ne t'en sortiras jamais, tu n'es pas un bon serviteur, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs, ou tu es trop jeune, ou tu es trop âgé. » Mais qu'est-ce qui, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il faut faire confiance à Dieu. Jésus lui dit, lorsqu'il voit quelqu'un à terre, il ne lui dit pas « Tu vas rester à terre toute ta vie », il lui dit « Lève-toi, prends ton lit » et marche. Voilà les paroles de Dieu, des paroles de foi. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus dit ? Si tu as la foi, si tu fais confiance à Dieu, tu vas pouvoir porter ce qui t'a dominé. Tu vas pouvoir porter ce qui t'a porté tant d'années. Une petite voix vous dira toujours « c'est impossible ». Mais rappelez-vous, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Oui, tout est possible à celui qui croit. Voilà comment nous devons remplir notre esprit. Et puis le quatrième élément que je vois, c'est au verset 5 à 8, c'est la nourriture que Dieu a préparée pour son serviteur. Lorsque Dieu a vu Élie dans cette situation de désespoir, il ne l'a pas laissé mourir dans son désert. Mais il a dépêché un ange qui est venu avec un gâteau et de la boisson pour le réconforter et lui donner un nouveau défi, un nouveau départ, le restaurer en quelque sorte physiquement, spirituellement, le remplir de sa paix, de sa grâce. Alors Dieu n'est pas pris au dépourvu. Peut-être quelqu'un est dans une situation impossible et se dit « mais comment est-ce que je peux faire ?» Je n'ai pas de solution devant moi. Mais Dieu a des solutions que nous ignorons. Par exemple, ici, il envoie un ange pour aller au secours de son serviteur. Mais Dieu peut vous envoyer une personne. Dieu peut incliner le cœur de votre patron. Dieu peut changer une situation dans votre famille par rapport à un enfant qui est parti et permettre qu'il revienne. Vous voyez l'histoire du fils prodigue, par exemple. Le père, lui, priait à la maison. Il ne pouvait rien faire pour son fils qui était parti avec tout l'argent. Il vivait dans la débauche, dans un pays éloigné. Mais il avait cette confiance que ce qu'il avait, que son fils était entre les mains de Dieu, et il priait pour lui. Et un jour, ça s'est passé dans le cœur de cet enfant. Il était loin de la maison, mais il est revenu en lui-même, et il a pensé à la maison du père. Et Dieu a permis qu'il se repente, et il a accepté de revenir à la maison. Le père ne pouvait pas faire cela, mais Dieu pouvait toucher le cœur de son fils. Et le fils est revenu dans le père. Peut-être c'est le cas de quelqu'un qui a un enfant qui a quitté le domicile familial, qui est rebelle, qui est loin du Seigneur. Mais en fait, la situation est entre les mains de Dieu. Et nous continuons à prier pour ces personnes parce qu'au temps convenable, ils vont réaliser leur vie. En tout cas, nous avons confiance que notre famille est entre les mains de Dieu. Nous devons le garder dans l'espoir et dans la foi. Lorsque Dieu a vu Élie dans cette situation, il n'a pas voulu qu'Élie meure dans son désert conformément à sa prière. Si Dieu l'avait exaucé, eh bien Dieu l'aurait repris. Mais Dieu n'a pas exaucé cette prière. Élie demandait à Dieu, « Maintenant, prends mon âme, je veux mourir. » Non, ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment. Élie avait encore des activités à faire pour Dieu. Alors Dieu va le fortifier avec de la nourriture, avec de l'eau. Cette nourriture, c'est plus qu'un simple gâteau. On va voir que cette nourriture va lui donner des forces spirituelles, pour marcher 40 jours, 40 nuits. C'est donc la nourriture de la parole de Dieu qui va nous donner cette force pour avancer dans la vie, car l'ange lui dit « le chemin est trop long pour toi, et sans cette force-là, nous ne tiendrons pas ». Cette nourriture, donc, n'a pas d'équivalent, vous ne la trouverez pas dans les restaurants, mais vous l'avez avec vous, c'est la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, mangeons la parole de Dieu, ça va remplir notre cœur de ces forces nouvelles et nous permettre d'avancer. Jésus a distribué cette nourriture. Ce dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est la nourriture de l'âme. La nourriture nourrit notre corps, oui, mais la nourriture de l'âme, il n'y a que la parole de Dieu. Lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine, il lui a donc prêché l'Évangile. Cette femme est partie en témoignant de tout ce que Jésus avait dit, que c'était la vérité, qu'il était un prophète et qu'il venait de Dieu. Mais quand les disciples sont revenus, ils lui ont proposé à manger. Jésus dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et Jésus leur parle d'une nourriture qui est spirituelle. Les disciples, eux, étaient plus concentrés sur la nourriture qui rassasie le corps. Mais Jésus dit non. J'ai à manger une autre nourriture, c'est la nourriture de la parole de Dieu, c'est la nourriture de Dieu, c'est ça qui va remplir mon âme, c'est faire la volonté de Dieu. La nourriture de Dieu va nous communiquer des forces nouvelles. J'ai regardé la distance entre le lieu où il est et Horeb, il y a environ 360 km. Il va faire 360 km donc à pied et Dieu va lui donner cette force pour marcher tout ce périple. Et c'est pourquoi si quelqu'un est découragé, eh bien nous avons dans la parole les forces nécessaires pour reprendre la marche. Mais on a besoin de la nourriture de Dieu. C'est vrai que le découragement nous attend parfois, quand on ne l'atteint pas. Élie était dans son sommet, il avait vu la main de Dieu agir, mais il est sombré dans la déprime. Pourquoi ? Parce qu'il a vu les paroles de Jézabel qui allaient s'accomplir dans sa vie. Il a cru qu'il allait mourir, il a eu peur. Et la peur l'a fait sombrer. Il a chuté et il a demandé la mort. Et tout tôt ou tard, nous connaissons tous ces formes de découragement. Ce qui est important ici dans ce récit et pour notre vie, c'est qu'Élie n'est pas resté dans son désert et qu'à un moment donné, Dieu nous tend la main pour nous permettre un nouveau départ. Et sans cette main tendue de Dieu, Élie n'avait pas la force de remonter la pente. Alors, on peut prier le Seigneur pour qu'il nous accorde encore une parole d'encouragement, encore qu'il vienne nous tendre la main pour nous relever si nous sommes fatigués, si nous sommes découragés. Et Jésus a tout fait pour nous. Il a tout prévu pour nous donner ses forces nouvelles. J'ai consulté une autre version quand il est dit au verset 8 qu'avec les forces que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. C'est aussi traduit et soutenu par cette nourriture. Soutenu par cette nourriture. Et la nourriture de Dieu, c'est un véritable soutien pour notre âme. On va prier un instant. Le Seigneur, merci encore pour ta présence. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui relève. Comme tu as restauré Élie, Seigneur, tu es capable de relever quiconque est tombé à terre. Et tu ne permettras pas, Seigneur, que nous restions dans ce passage du découragement, mais tu veux que nous puissions remonter la pente et, comme Élie, retrouver des forces nouvelles dans ta présence, dans la marche avec toi. Tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde, mais nous voulons reconnaître aussi notre faiblesse, parfois le doute qui nous assaille ou les craintes qui sont là dans notre cœur. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous donnes la victoire, que tu nous donnes l'autorité. Nous ne voulons pas laisser à l'adversaire l'occasion de remplir notre cœur de ces paroles mauvaises, laisser à l'adversaire la possibilité de triompher sur nous, mais nous voulons au contraire te mettre à l'honneur et te bénir. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Amen.